RCF.
Un nouveau rendez-vous en collaboration avec la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une journée qui a lieu tous les 25 novembre. Dans un premier temps, nous irons rencontrer deux membres de l'association Psychotraumatisme et Résilience qui organisait le 17 novembre une matinée porte ouverte pour présenter et expérimenter le dispositif Les Clés de la Résilience. Et en fin d'émission, nous donnerons un coup de projecteur sur différentes manifestations qui se produisent ici ou là à l'occasion de cette journée du 25 novembre.
RCF Pays de l'Ain, Isabelle Berger.
L'association Psychotraumatisme et Résilience se mobilise dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes pour engager la discussion avec des professionnels du soin et de l'accompagnement. Elle a proposé une rencontre le vendredi 17 novembre pour présenter et faire expérimenter le dispositif Les Clés de la Résilience. Rachel Bernard, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes aussi psychovictimologue et psychocriminologue. Vous allez nous préciser ce que sont ces champs dans votre domaine, dans votre profession. Et puis Rosalie Cardulot, vous êtes présidente de l'association Psychotraumatisme et Résilience qui est donc à l'origine de cette rencontre du 17 novembre. Donc psycho-victimologue, psycho-criminologue, Rachel Bernard, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors le champ de la psychologie, c'est un champ qui est assez vaste. La psycho-victimologie, c'est vraiment le domaine qui prend en charge le psychotrauma auprès des victimes. Alors victimes d'agressions, mais aussi victimes de catastrophes naturelles, d'accidents de la route, d'accidents médicaux. Donc c'est vraiment la victime au sens large et surtout la victime au sens souffrant du terme. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une souffrance qui est causée par un acte dont la personne n'est pas responsable, on peut parler de victimologie. Et la criminologie, bah, c'est l'autre verso de la pièce, j'ai envie de dire. Dans les actes où il y a une personne humaine qui est responsable, où il y a un auteur, la criminologie, la psychocriminologie vient prendre en charge ces personnes-là pour les aider à gérer aussi la souffrance dans laquelle ils peuvent être, et puis à réfléchir sur pourquoi il y a eu un passage à l'acte et voir comment ils peuvent dépasser cet événement-là.
Donc c'est tout type de violence, pas uniquement celle faite aux femmes.
Alors, le psychotraumatisme peut, en fin de compte, être ressenti dans plein de situations différentes. Il n'y a pas de situation forcément unique. Après, la victimologie, souvent, on l'entend aussi au niveau pénal. C'est-à-dire que est-ce qu'il y aura une procédure pénale qui va être mise en place par la victime, est-ce qu'elle a déposé plainte, etc. Mais au niveau psychovictimologie, on n'est pas limité à une procédure pénale. Quelqu'un qui ne veut pas porter plainte est considéré aussi comme une victime.
Et c'est donc avec ces deux spécialités, je ne sais pas si c'est le terme qu'on utilise, vous êtes experte à la Cour d'appel de Lyon.
Tout à fait. Dans le volet psychovictimaux et psychocriminaux, il y a une mission qui est l'expertise judiciaire, qui est une mission extrêmement intéressante, assez exigeante, sur laquelle les magistrats demandent un avis à des experts psychos, à des experts psychiatres aussi, pour donner des éléments sur l'impact du psychotraumatisme concernant les plaignants et aussi sur la personnalité de la victime ou de l'auteur concernant les auteurs.
Et vous intervenez plus ou on fait appel à vous plus dans le cadre de violences faites aux femmes ?
Actuellement, on n'est pas très nombreux en tant qu'experts, on est un peu débordés. Donc il y a vraiment une réalité de surcharge de travail qui fait que pour notre propre santé mentale, on s'organise tous un petit peu comme on peut. Moi actuellement, j'interviens seulement dans le cadre de l'unité médico-judiciaire pour mineurs qui est portée par la VEMA. Donc j'interviens à 90%, j'ai envie de dire, auprès de mineurs qui ont été victimes de violences ou d'agressions sexuelles.
Rosalie Cardulot, vous êtes présidente de l'association Psychotraumatisme et Résilience. Quelques mots sur cette association ?
Alors, on a créé l'association l'année dernière. C'est une association loi 1901 qui émane du cabinet et qui a été créée vraiment pour promouvoir la santé mentale du psychotrauma. On a créé les clés de la résilience l'année dernière. Donc, c'est un outil qui permet justement d'avoir un outil dans le sac. Aujourd'hui, on va justement expliquer par cette matinale nos outils, les ateliers qui ont été mis en place à l'attention des victimes de violences conjugales, mais aussi des victimes de psychotrauma pour les professionnels.
Avant de présenter les outils, les clés de la résilience dont vous venez de parler, Rosalie Courdoulot, que représente pour vous ce 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes ?
Alors effectivement, cette journée est importante de par justement tout le recensement des victimes, de par tous les féminicides, de par les conséquences sur les enfants, mais également sur le psychotrauma des femmes et la longueur justement dans la guérison, dans la résilience. Donc cette journée, elle est importante. C'est pour ça qu'on l'a créée l'année dernière, l'association, pour le 25 novembre, pour la clé de la résilience du 25 novembre 2022.
Pour vous, Rachel Bernard ?
Je pense qu'on est parti vraiment d'un constat qu'il y a ce constat chiffré et il y a le constat de la prise en charge, en fait. Quelle offre il existe sur le territoire? Il existe des choses, bien entendu. Est-ce suffisant? J'imagine qu'on peut toujours un petit peu améliorer et diversifier. Et surtout, c'est surtout la diversification qui était importante pour nous. On est vraiment une association avec plein de professionnels différents qui apportons des outils différents qui sont pas toujours accessibles dans les structures de droit commun. Et du coup, il y a une richesse de prise en charge qui est intéressante.
Alors, dans les pratiques des différents professionnels regroupés au sein de l'association Psychotraumatisme et Résilience, quel constat vous faites sur les traumatismes suite aux violences faites aux femmes ?
Eh bien, le pouvoir du groupe, déjà, qui est important, qui est le moteur de l'association aussi. Et puis finalement, la richesse de la pluridisciplinarité, que ce soit de la sophrologie, de l'hypnose, de la psychologie, des groupes de parole, de la médiation aussi également, permet justement d'enrichir et on peut constater l'évolution et la volonté aussi des personnes qui participent, qu'elles soient libérales ou orientées par les centres médico-sociaux, puisque c'est aussi la volonté de l'association, de cette pluridisciplinarité et de ce mélange justement de toutes ces personnes.
Et concernant donc les traumatismes subis par les femmes, on dit souvent que la violence physique se voit plus que la violence psychique. Rachel Bernard.
Alors, la violence physique se voit plus, ouais, c'est sûr. Et néanmoins, c'est pas du tout la plus difficile. Toutes les personnes victimes, parce que là, c'est vrai que sur cette journée, on est particulièrement adressé aux femmes, mais l'association n'a pas que vocation de s'adresser aux femmes. On peut aussi avoir des actions auprès des hommes ou auprès des enfants. Mais en effet, ce qu'on entend dans le discours, c'est que les mots sont encore plus traumatisant sur le long terme que les coups. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, je pense, pour la société et plus particulièrement pour l'entourage des personnes victimes. C'est qu'autant un coup, ça se voit et ça va nous faire réagir en tant qu'entourage parce qu'on va trouver ça inadmissible.
Encore que ça se voit caché parfois par les vêtements.
Bien entendu, ça se voit pas toujours. Elles ont plein de stratagèmes pour le cacher quand c'est pas le moment pour elles de le montrer, en tout cas. Et par contre, les mots, on les voit pas, on les entend pas, on n'est pas forcément présent et on ne se rend pas compte de la trace que ça laisse.
Et quelle trace ?
Beaucoup de perte d'estime de soi. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment commun à tous. Et c'est ça aussi qui empêche la guérison. C'est pour ça que le fait que ça soit pluridisciplinaire, nos actions amènent différents outils pour travailler sur l'estime de soi, que ce soit des outils corporels ou juste dans le prendre soin de soi. Et des fois, en fonction de là où elles en sont, les femmes, elles ont besoin de mettre des mots, M-O-T, ou alors elles ont besoin juste de passer par le corps ou de passer par des émotions ou par des techniques qui vont être un peu éloignées à la base du psychotrauma. Je sais pas, par exemple, la naturopathie, c'est pas forcément si évident de faire le lien avec le psychotrauma, mais le fait de prendre soin d'elle à travers, je me suis posé la question, est-ce que je dors bien, comment je mange, etc., comment ma peau va, enfin voilà, ça reste des femmes aussi dans tout leur aspect, et bien ça leur permet petit à petit de renouer avec leur confiance en elles, avec leur estime d'elles, et ça les fait avancer.
Pour les enfants, quand ils sont présents dans la famille et témoins de ces violences, quel trauma ?
Les enfants témoins ou parfois victimes sont aussi concernés par le psychotrauma. C'est difficile pour les enfants parce que parfois les parents, vraiment dans une volonté de les protéger, minimisent beaucoup l'impact. Oui, non, mais ils ont rien vu. Non, mais ils étaient pas dans la même pièce. Non, mais ils entendaient pas. Ça se passait quand ils étaient pas là. Oui, ok. Sauf que l'ambiance traumatique, elle est quand même présente au domicile. Et que cette ambiance traumatique va créer aussi un trauma chez l'enfant. Alors, ça va se manifester de différentes manières selon l'enfant, selon l'âge, etc. Mais il n'est pas encore assez pris en considération, je pense. On a encore un petit peu de travail là-dessus.
Le 25 novembre, c'est donc la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, pour informer, aussi pour des actions de prévention. Quels signes peuvent alerter l'entourage, la femme elle-même, Rachel Bernard?
La violence conjugale, la violence intrafamiliale, de manière générale, elle s'installe de manière très, très sournoise. Ça s'insinue dans le quotidien. C'est-à-dire qu'au début, le couple, la famille peut paraître plutôt épanouie, fonctionne bien. Même, on peut avoir assisté à des scènes où le conjoint va être très attentif, très attentionné, avoir beaucoup de charme, etc. Ok, ça c'est le début. Et puis petit à petit, mais vraiment tout doucement, il y a quelque chose qui glisse. Avec un éloignement, souvent quand même, de la personne qui va être victime, qui va être moins en lien avec sa famille, ils vont déménager, elle va plus voir ses amis, parce que c'est compliqué, parce qu'il est jaloux, parce que si, enfin voilà, des choses toutes petites, hein, vraiment. Là, quand on le dit comme ça, ça a l'air évident comme signe, mais en fait, ça s'inscrit dans la durée. Donc ça commence par ça. Et puis après, bah voilà, petit à petit, des actes de contrôle. Ben voilà, elle n'a plus vraiment le droit de faire comme elle veut, de sortir comme elle veut, des petites choses, de dépenser l'argent comme elle veut, de parler comme elle veut, de parler à qui elle veut. Voilà, c'est des petites choses qui s'inscrivent comme ça. Donc pour l'entourage, c'est pas si facilement perceptible parce que on a juste l'impression que c'est la vie de couple qui s'organise en fin de compte et que bah oui, quand on est en couple, on change. Donc on laisse faire comme ça. Et puis je pense qu'il y a aussi un mythe profond qui est que ce qui se passe dans une famille ne regarde que les membres d'une famille. Et on ne sait pas trop quoi en faire, en fait, quand on est de l'extérieur. On ne sait pas quoi dire, qui est-on pour juger, comment aborder les choses. C'est pas simple, en fait. On a tendance à détourner le regard, quand même.
Oui, c'est vrai qu'au sein de la maison, il y a le pouvoir de domination, la loi du silence. Et effectivement, c'est difficile pour les femmes de pouvoir verbaliser les choses, surtout qu'il y a souvent ce stratagème d'inversion accusatoire. Donc les femmes se renferment et plus elles s'isolent et plus finalement elles se sentent isolées et après il y a encore moins de soutien. Donc c'est vrai que l'association vraiment pour la pluridisciplinarité permet de travailler sur le corps et sur l'esprit. Parce qu'effectivement, que ce soit une emprise psychologique ou une violence physique, il y a la somatisation corporelle qui prend place. Et donc souvent, il faut travailler avec tout le corps, même le corps médical, pour travailler sur la somatisation corporelle, les maladies qui peuvent se déclarer 6 mois, voire 1 ou 2 ans après, qui sont aussi à prendre en compte.
Et c'est finalement cette installation sournoise qui fait que la femme ne réagit pas tout de suite et ensuite a beaucoup de mal à s'en extraire.
Oui, parce que finalement, plus il y a du temps et plus c'est difficile à la femme. Alors après, tout dépend s'il y a des enfants et que là, c'est encore plus difficile. Mais c'est difficile de partir parce que dans le sens où elles veulent toujours récupérer l'homme qu'elles ont connu. Parce que comme Rachel le disait, c'est vraiment dans la longueur, dans la durée. Et finalement, elles pensent que c'est de leur faute. Parce qu'à chaque fois, s'il y a un coup qui est tombé, c'est souvent on entend les mêmes phrases. Tu vois bien à cause de toi comment je suis, ce que tu me fais faire. Donc finalement, c'est difficile pour la femme de repartir et de comprendre déjà ce qui se passe.
Alors, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes, le 25 novembre de chaque année, l'association Psychotraumatisme et Résilience présente les clés de la résilience. Donc, vous êtes toutes deux membres de cette association, Rachel Bernard et Rosalie Cardullo. Quels sont ces outils? De quoi s'agit-il?
On a créé en fait un porte-clés avec toutes sortes d'outils, que ce soit sur de la méditation, sur la respiration, sur la cohérence cardiaque. On peut rajouter même le violentomètre puisque c'est quand même nécessaire. Il y a toutes sortes d'outils que tous les praticiens du cabinet et extérieur permettent d'expérimenter généralement au sein du cabinet et au sein de leur pratique. et de la médiation. Je vais évoquer aussi des futurs projets, finalement, que ce soit le projet du Kintsugi corporel sur...
De quoi ?
Le Kintsugi corporel, la réparation et la construction sur le corps aussi. Et que, bien évidemment, tous ces ateliers ont été mis en place grâce, finalement, aussi aux financeurs que sur le Rotary Club et d'autres financeurs qui nous permettent, justement, de réaliser des ateliers qui se veulent pérennes dans la durée.
La déléguée aux droits des femmes nous soutient par rapport, entre autres, au groupe de parole à destination des femmes victimes de violences conjugales, qui est un groupe de parole mensuel animé par deux psychologues et dont la volonté, comme le dit Rosalie, c'est d'être un groupe pérenne, dans le sens où il n'est pas facile pour les partenaires aussi de savoir vers qui orienter, parce que des dispositifs changent tout le temps, ça bouge beaucoup en fin de compte, hein, dans le milieu associatif, dans le milieu de la prise en charge de la santé mentale. Tant mieux, ça montre un dynamisme, mais ça crée de la confusion aussi parfois. Donc là, l'envie de l'association, c'est vraiment de se dire que ce groupe de parole, il existe aujourd'hui, bah, j'espère que dans 10 ans, il existera encore et qu'on pourra accompagner plein de femmes victimes de violences conjugales avec...
Non, oui, ou alors qu'il n'y aura plus de violences conjugales, mais ça c'est un grand rêve.
C'est utopique, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'être un lieu ressource, hein, petit à petit, d'être identifié par les partenaires, par les professionnels, par le public aussi, comme un lieu vers qui on peut se tourner dans ces problématiques-là.
Donc cette matinée du 17 novembre, jour où nous vous rencontrons, est un franc succès. La matinée n'a pas encore commencé, mais il y a une cinquantaine de personnes inscrites.
Ouais, tout à fait. Il y a 55 inscrits pour cette matinée.
Donc des professionnels.
Hein. Des professionnels. Et vraiment, ce qui est chouette, je trouve qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est qu'on a beaucoup de professionnels et on a énormément, je pense, 80% de professionnels qui viennent d'institutions de la santé mentale. C'est-à-dire qu'auparavant, ce genre d'action attirait quand même plus des bénévoles d'associations ou des professionnels en libéral. Parce qu'on a aussi cette casquette, hein, mine de rien, c'est issu quand même d'un cabinet à la base libérale, donc il y a aussi cette dimension-là. Et là, vraiment, on voit que le sujet, il permet de rallier aussi des professionnels qui viennent d'institutions et qui sont aussi, je pense, à la recherche de solutions de prise en charge en dehors de l'institution. C'est-à-dire que les personnes qui sont accompagnées, que ce soit par le CPA, par exemple, viennent à un moment donné dans leur vie avec certains outils. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Et tout le principe des clés de la résilience a été réfléchi autour de ça. Hein. Cet outil du porte-clés, c'est vraiment, il a été construit sur le constat que on est en prise en charge individuelle en tant que professionnel, ok, avec notre casquette de libéral. On aborde beaucoup de choses, on accompagne les personnes, mais mine de rien, ça dure quoi ? Une heure de rendez-vous, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça dépend. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux en fait de ces rendez-vous-là ? Et le porte-clés, il a vraiment été conçu pour que les personnes à qui on le transmet, parce qu'on l'explique, on va vraiment faire de l'éducation thérapeutique en fin de compte autour de ce porte-clés, puissent, en cas de crise d'angoisse, en cas de trouble du sommeil, en cas de moment particulièrement stressant dans leur quotidien, sortir physiquement ce porte-clés, parce que c'est un vrai outil, et choisir dans les outils qui sont proposés quel outil de régulation émotionnelle va les aider à surmonter ce qui est en train de se passer dans l'ici et le maintenant. Et ça, c'est important pour redonner du pouvoir. Le nom de l'événement, là-bas, c'était les clés de la résilience, rester actrice de votre vie. Parce qu'il y a vraiment cette dimension-là où il faut pouvoir, par soi-même, se sortir du trauma. Donc l'objectif de tous les ateliers que Rosalie a expliqué, c'est de leur redonner le pouvoir, en fait, vraiment.
Donc ce sont des outils très pratiques, ouais. Des exercices, vous le disiez, de respiration, de méditation.
Oui, il y a des exercices très pratiques avec cette force de notre regard, en fin de compte, croisé de plusieurs professionnels. Donc ça va de la méditation, de la respiration, des points de EFD, de l'automassage, des exercices de visualisation, de la naturopathie avec voilà, certaines odeurs qui peuvent être des odeurs un petit peu calmantes, etc. Enfin, on essaie d'aborder une globalité d'outils parce que ce qu'on se rend compte, c'est que on est tous des humains très différents et qu'un outil qui va marcher pour l'un marchera peut-être pas pour l'autre et que c'est bien d'avoir le choix, du coup, d'aller choisir, de pouvoir trouver ce qui va nous correspondre à nous.
Quelles sont les conditions pour que s'installe la résilience, Aurélie Cardulo ?
Guérir son enfant intérieur, déjà, pour commencer, se pardonner, passer au-delà de la place de victime pour justement redevenir actrice de sa vie et effectivement avancer. Et donc ces outils permettent justement d'avoir quelque chose, comme Rachel le disait, d'avoir quelque chose à portée de main qui permet de pas ancrer encore cette souffrance et de vraiment de la dépasser dans le ici, le maintenant pour pouvoir continuer à avancer.
Rachel Bernard,
La résilience, elle dépend de plein de facteurs différents, donc il n'y a pas une réponse unique. Moi, je pense que le message qu'on a envie de passer aussi à travers l'association, c'est qu'on peut être acteur de sa résilience, donc on peut en effet mettre en place des choses. Et puis, ce qu'on a observé, qui est assez chouette, hein, hier, on avait l'Assemblée Générale de l'association, donc ça nous a permis de faire un vrai bilan sur l'année qui s'est écoulée. Et une de nos collègues nous faisait part que lors des ateliers qu'elle animait, elle avait observé qu'il y avait beaucoup de solidarité qui se créait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes clairement, qui sont venus aux ateliers en accompagnant quelqu'un d'autre qui en avait peut-être plus besoin, en offrant même la place à la personne pour pouvoir être dans l'étayage sur le côté financier aussi qui n'était pas simple, et en juste venant reconnaître, ouais, je vois que tu souffres, je vois que ça ne va pas bien, je suis là à côté de toi et on fait cette démarche ensemble. Et ça, déjà, c'est un étayage, donc un étayage de résilience qui est super important et où chacun d'entre nous, en fait, on a un rôle à jouer.
Vous avez fait allusion, Rachel Bernard, au fait de venir ensemble, qu'une personne assure le financement aussi de la présence d'une autre. Combien coûte la participation aux ateliers ou une consultation pour ces clés de la résilience ?
Alors au départ, on avait pensé justement qu'une place achetée permettait justement d'offrir une place gratuite à quelqu'un qui viendrait justement des centres médico-sociaux, des partenaires. Et on a remarqué effectivement que parfois, même en libéral, il est difficile aussi de financer sa place dans la durée. Et bien évidemment, on adapte à la situation. Et grâce aux financeurs, justement, aux subventions, ça nous permet de mettre en place quand même à des prix très abordables pour tout le monde.
On est soit 15 euros la séance, pour être très clair, pour les personnes qui... C'est important aussi parfois de payer sa séance pour pouvoir s'engager vraiment. Donc il y a cette possibilité-là. À 15 euros. Et puis, pour chaque personne qui est en difficulté ou ce mois-ci, c'est compliqué. Là, il y a Noël qui approche, on peut imaginer que ça va être un peu plus difficile pour certaines personnes. Il y a la gratuité qui est proposée. Donc, il n'y a pas de frein financier, en fin de compte. C'est vraiment chacun... On a une personne là qui vient régulièrement aux ateliers. Bah, 15 euros, c'est un peu trop compliqué, mais elle a quand même envie, je pense, aussi pour être actrice, justement, de cet engagement-là qu'elle fait envers elle-même d'aller mieux, d'engager aussi financièrement. Donc, elle paye 10 euros. Voilà, c'est elle qui a mis son tarif. Et pour nous, c'est OK. Il n'y a pas de... On n'est pas dans la demande, en tout cas, d'autre chose.
Alors, pour contacter votre association, donc Psychotraumatisme et Résilience...
Alors, on est encore un bébé association. On a un an d'existence. Donc, l'association, elle émane à la base du cabinet Brou-Victor Hugo Psychotrauma et Résilience. Donc, pour l'instant, c'est par ce biais-là qu'il faut nous contacter. On a une page Facebook qui est actualisée régulièrement, avec aussi une adresse mail qui est contact@brouvictorhugo.fr. Donc pour l'instant, ça repasse par le même canal. Hier, l'AG nous a permis d'accueillir de nouveaux membres dans l'association. Donc on s'agrandit au bout d'un an. On passe un petit peu les stades. Donc je pense qu'on va pouvoir aussi développer d'autres médias de communication.
Merci beaucoup Rachel Bernard et Rosalie Cardulot de l'association Psychotraumatisme et Résilience, dont le siège donc est au 62 boulevard Victor Hugo à Bourg-en-Bresse. Merci.
RCF Pays de l'Ain, Isabelle Berger.
Féminin pluriel, une émission réalisée à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre. Et la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité informe de plusieurs manifestations dans le cadre de cette journée internationale. Ce jeudi 23 novembre à 13h30 et à 15h15, l'accueil de jour pour femmes et enfants de l'ADSEA 01 à Bourg-en-Bresse propose d'apprendre à lutter contre le harcèlement de rue avec la méthode des 5D. Ces deux ateliers seront organisés au lieu de l'accueil de jour, donc 12 Place Caria à Bourg, 13h30, 15h15. Vendredi 24 novembre, l'AVEMA organise une matinée porte ouverte sur le thème Accompagner les femmes victimes de violences conjugales, c'est aussi prendre soin d'elles. C'est de 9h30 à 13h au siège de la VEMA, 1 rue de la Bibliothèque à Bourg. 24 novembre également à la Tannerie à 18h30, une soirée des Pawa Club qui permettent aux personnes minorisées et à leurs alliés de recharger leur batterie mentale dans un espace de célébration. Plus d'infos sur le site de la tannerie. Samedi 25 novembre, à Journan, la bibliothèque diffusera à la salle communale le documentaire Shaïla, un film qui sera suivi d'un débat avec le réalisateur et une professionnelle diplômée en victimologie à Journan ce samedi à 17h30. Lundi 27 novembre, au collège du Valromey à Artemar, le CIDFF animera des ateliers de prévention et de sensibilisation à la lutte contre les violences. Ce sera au collège d'Artemar. Et puis le 28 novembre, mardi prochain, au tiers-lieu L'Écrin à Bresse-Vallon de 10h30 à midi, l'association Couple et Famille de l'Ain et l'ADSEA organiseront un café papote sur le thème « Stéréotypes et préjugés autour du couple ». Parlons-en. Enfin, jeudi 30 novembre à 18h30, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, en partenariat avec l'association 1 Appui, organise une conférence à destination des professionnels de santé sur le thème « Le soignant face au secret des violences conjugales ». Ainsi se termine Féminin Pluriel, une émission en collaboration avec la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité dans l'Ain.